Il est d'environ 6 heures. 6 heures du matin quand les chefs des Juifs livrent Jésus à Pilate. Ils lui ont déjà craché au visage. Ils lui ont déjà frappé à coups de poing dans le visage. Une haine féroce les anime. Pilate sait que c'est par jalousie qu'ils l'ont livré. Parce que Jésus a gagné le peuple et le peuple n'allait plus suivre la foule, les sacrificateurs. Alors convaincu de son innocence, Pilate cherche par tous les moyens à sauver Jésus d'une condamnation certaine. Alors, il l'interroge, mais Jésus ne se défend pas. Alors, il propose de relâcher l'un des prisonniers, comme c'est la coutume à Pâques. Il propose le pire prisonnier qu'il a dans ses geôles. Le pire s'appelle en ce moment Barabbas. C'est le genre de Saleh Abdeslam. Vous savez, ce gars qu'on vient d'attraper, qui était ce terroriste des attentats du 13 novembre dernier, en cavale depuis 4 mois. Voilà le genre d'homme. Il l'attrape. Et Pilate leur dit, « Lequel voulez-vous que je vous relâche ?» Quand il fait cette proposition, il pense avoir trouvé une solution à cette affaire. Il s'est dit, ils n'ont pas vraiment le choix en fait. Il y a une pire des ordures qui est là, et puis il y a Jésus dont ils sont jaloux. Et là, il crie Barabbas. Délivre-nous, Barabbas. Stupéfait, Pilate dit, mais que voulez-vous que je fasse de celui que vous appelez le roi des Juifs? Il crie, crucifie-le, crucifie-le. Mais quel mal a-t-il fait? Mais crucifie-le. Il est 9 heures du matin quand Jésus est crucifié. Et je vous propose ce matin de voir quelques réactions devant Jésus crucifié. Finalement, on est tous un jour confrontés à passer devant la croix de Christ. Et on doit répondre face à la croix de Christ. Je vous propose de voir ce matin Jésus objet de toutes les moqueries. Jésus couvert par les ténèbres. On verra ensuite Jésus, Fils de Dieu. Jésus, objet de toutes les moqueries. On voit ça dans les versets 16 à 32. Les souffrances de la croix sont très peu évoquées. Et c'est surprenant, n'est-ce pas? Dans tout le passage, au verset 24, quand il faut parler de la croix, Marc dit « Ils le crucifièrent ». C'est tout. Ils le crucifièrent. Vous savez, si Marc n'a pas besoin de trop expliquer ici, c'est que pour une personne ayant vécu à Jérusalem, à l'époque de Christ, lorsque vous aviez assisté à une crucifixion, vous en connaissiez toute l'horreur. Vous n'oublieriez jamais ce jour-là. Inutile pour Marc d'en faire toute la description. Rien que le mot « ils le crucifièrent » évoque pour toute la foule, pour tous les lecteurs, la plus effroyable des morts. Ça évoque les plus atroces souffrances, la plus lente et la plus cruelle agonie. La crucifixion était conçue pour être une méthode d'exécution la plus humiliante, la plus sanguinaire possible. Les Romains réservaient la crucifixion aux pires criminels. C'était un spectacle public, sanglant, provoquant une douleur extrême, se terminant généralement après de longues heures d'agonie, par une mort horrible, par commotion ou par asphyxie. La crucifixion, c'était le moyen d'exécuter les criminels et c'était aussi le moyen de dissuader tous les criminels potentiels. Mais Marc n'en dit quasiment rien, mais ce qu'il relève dans le passage, c'est ce qui semble le plus choquant à ses yeux, ce sont les moqueries. Les moqueries dont s'est accompagnée la crucifixion de Christ. Vous savez, passer devant un crucifié, les souffrances étaient telles, le spectacle était si insoutenable que ça n'inspirait pas la moquerie à personne. D'ailleurs, il y avait deux criminels qui étaient crucifiés en même temps que Christ. Il n'y a aucun colibé qui ne leur a été adressé. Aucun bienfait. Aucun « t'avais qu'à te tenir à carreau ». Non. Les gens ont plutôt de la sympathie quand ils croisent un crucifié. En tout cas, ils ont de la retenue à cause de la souffrance du crucifié. Mais pour le cas de Christ ici, c'est la moquerie. La moquerie sans cesse. Des versets 16 à 32, les gens se moquent. Regardez les soldats avant de le conduire au calvaire. Ils savent qu'ils vont le crucifier. Au verset 16, les soldats conduisirent Jésus dans l'intérieur de la cour, c'est-à-dire dans le prétoire. Ils assemblèrent toute la cohorte. C'est peut-être quelque chose comme 600 hommes qui sont là. Ils le revêtirent de pourpre et posèrent sur sa tête une couronne d'épines. Ils ne la polissent pas délicatement, ils l'enfoncent ils les ont entendus qu'il était le roi des Juifs. Alors ils ont dit, on va lui faire une couronne. Ces couronnes d'épines qui ont fait saigner sa tête. Et après ils ont tapé dessus pour enfoncer bien comme il faut toutes les épines. Et puis ils se moquent de lui, ils lui mettent un manteau de couleur royale, et puis ils lui mettent un roseau dans les mains pour un sceptre, et puis ils se prosternent devant lui et disent « Ah, salut roi des Juifs !»« Tu veux être le roi ? Alors regarde le roi que tu es !» Et puis la foule, c'est la foule qui a crié lundi, on est vendredi, ils ont crié lundi, « Hosanna, ô fils de David, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur !» Plusieurs de cette même foule crient aujourd'hui et l'injurient, verset 29, et secouent la tête en disant, « Hé, toi qui détruis le temple et qui le rebâtis en 3 jours, sauve-toi toi-même en descendant de la croix. » Comment peut-il prétendre sauver les autres alors qu'il n'est même pas capable de se sauver lui-même. Ils sont au courant de ses miracles, mais malgré ses œuvres étonnantes, ils refusent quand même de croire en lui. Et puis, verset 31, ce sont les chefs religieux, les principaux sacrificateurs aussi, avec les scribes, se moquaient entre eux. Ils disaient, il a sauvé les autres, il ne peut se sauver lui-même. Que le Christ, le roi d'Israël, descende maintenant de la croix, afin que nous voyons et que nous croyons. Et puis les criminels eux-mêmes. Ces deux hommes qui subissent la même condamnation, la même souffrance, l'insultaient aussi. L'une des moqueries est une sorte de défi. Ils disent, si tu es le Christ, descends de la croix. Alors prouve que tu es le Christ en descendant de la croix. Or, Jésus prouve qu'il est le Christ, en restant sur la croix. En y restant, malgré leur moquerie. Le Christ devait mourir pour nous. Son dessein n'est pas seulement de nous délivrer de l'oppression romaine ou autre, mais de nous délivrer du péché et de la mort, pour que nous vivions véritablement et éternellement avec le Seigneur. Vous savez, Encore aujourd'hui, certains ont parfois tendance à considérer Jésus de la même manière. Si tu es le Christ, délivre-moi de la maladie. Si tu es le Christ, donne-moi du travail, donne-moi un logement, donne-moi un mari, une épouse. Donne, donne, donne. Et puis je croirai en toi. La chose, c'est que ceux qui ont crié ces choses-là ont assisté à la résurrection de Lazare juste quelques jours plus tôt. Et ils ne croient toujours pas. Si Jésus descendait de la croix, ils ne croiraient pas parce qu'ils ne veulent pas croire. Et quand on prétend que Jésus pourrait nous donner et nous donner tout un tas de choses pour que l'on croie en lui, la réalité, c'est que la plupart du temps, Dieu le fait et les hommes ne croient quand même pas en lui. Ils ne saisissent pas l'enjeu. L'enjeu est bien plus vaste parce qu'il est le Christ, le Fils de Dieu. Il veut nous délivrer du péché et de la mort et il poursuit cette œuvre malgré nous. C'est étonnant, Jésus n'a pas dit « Bon, eh bien, j'en ai assez de vos moqueries. Hein, puisque vous ne comprenez pas l'œuvre que je suis en train de faire, je descends de la croix. » Non, Jésus, il est venu pour la croix. Il est venu précisément pour mourir. Il sait qu'il n'y a pas dans l'univers un autre moyen de sauver les hommes que de passer par cette croix. Écoutez ce que dit Ésaïe, 700 ans avant Jésus-Christ, dans le chapitre 53, le verset 3 à 5, il dit « Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage, nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé, et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités, et le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. » Jésus, objet de toutes les moqueries, est mort pour ses moqueurs. Et puis, Jésus est couvert ensuite par les ténèbres. Dans les versets 33 à 38, il est dit verset 33, à la sixième heure, j'ai perdu ma page, la sixième heure étant venue, il y eut des ténèbres sur toute la terre, jusqu'à la neuvième heure. Les Juifs comptaient les heures de la journée depuis le lever du soleil, c'est-à-dire 6 heures du matin. Ainsi, la sixième heure, c'est midi. Et il est dit ici que de midi jusqu'à 15 heures, il y a eu des ténèbres sur toute la terre. Les ténèbres, il ne s'agit pas d'un gros nuage qui voile le soleil pendant quelques instants. Aucun évangéliste n'aurait relevé une météo classique. Mais tous ont mentionné des ténèbres durant 3 heures en pleine journée. Pourquoi de telles ténèbres? Les ténèbres sont ici la manifestation du jugement de Dieu. Je voudrais vous lire, il y a pas mal de passages qui en parlent, mais en Ésaïe chapitre 13, au verset 9 et 10, je lis ici, « Voici le jour de l'Éternel arrive, jour cruel, jour de colère et d'ardente fureur, qui réduira la terre en solitude et en exterminera les pécheurs. Car les étoiles des cieux et leurs astres ne feront plus briller leur lumière. Le soleil s'obscurcira dès son lever et la lune ne fera plus luire sa clarté. » Vous voyez ici, quand Dieu annonce le jugement qui va s'abattre sur ce monde, il dit que Dieu éteint toutes les lumières. Les ténèbres de l'enfer sont la manifestation du jugement de Dieu sur le péché. Dieu, il est lumière. Et lorsqu'il réprouve le pécheur, il l'envoie dans les ténèbres. Des ténèbres en plein midi. Mais qui est jugé? Qui est jugé? La réponse se trouve dans le verset suivant, verset 34. Il dit, « Et à la neuvième heure, Jésus s'écria d'une voix forte, « Eloi, Eloi, lama sabachthani », ce qui signifie « mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Pourquoi m'as-tu abandonné ? Celui qui est jugé, c'est Jésus. Il dit ici être abandonné. Lorsqu'une personne vous dit « je te quitte », si c'est un inconnu, ça ne vous fait rien. Si c'est un ami, ça vous brise le cœur. Et ça fait d'autant plus mal que la relation est ancienne et profonde. Imaginez Jésus, le Fils éternel, qui a connu l'éternité en pleine communion avec le Père et l'Esprit, et qui ressent cette séparation, cet abandon du Père. Mais alors pourquoi est-il abandonné? La réponse, pour vous, pour moi, pour nous. Aucun réconfort de la part du Père. Quand Jésus était tenté pendant 40 jours dans le désert, à la fin, des anges sont venus pour le servir. Quand la veille, il était dans l'agonie en prière, des grumeaux de sang perlés de son visage, un ange est venu pour le fortifier. Mais quand il est sur la croix, pas d'ange. Quand il est sur la croix, il est abandonné du Père, sans aucun réconfort possible. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Ce qui fait la terreur de Christ, ce n'était pas tant l'agonie de la croix, mais l'abandon du Père. Christ, le Fils éternel, qui a toujours vécu dans une pleine communion parfaite et intime, sans la moindre interruption, sans le moindre fléchissement dans cette communion, il est abandonné. Jésus est abandonné et il est plongé dans les ténèbres pour que nous ne le soyons jamais. Il souffre l'enfer de la croix pour que nous n'ayons jamais à le connaître. Voyez quel amour le Père nous a témoigné en nous donnant son Fils. Voyez l'amour de Christ pour chacun d'entre vous. Voyez la gravité de nos fautes et de nos péchés. Et voyez la splendeur de son amour pour nous. Dieu nous a aimés à ce point. Christ s'est livré par amour pour nous à ce point. La preuve est faite qu'il a vraiment payé pour nous. Parce que à ce moment-là, au moment où Jésus expire, le voile du temple se déchire depuis le haut jusqu'en bas. Il ne s'agit pas d'un petit voilage. Non, il s'agit ici d'un rideau extrêmement épais. Ce voile sépare le lieu saint d'avec le lieu très saint. Le lieu saint, c'était l'endroit où les sacrificateurs, les prêtres pouvaient venir jour après jour et exercer le service. Mais le lieu très saint, c'était l'endroit où il y avait l'arche de l'Alliance. qui symbolisait la présence même de Dieu. Et seul le souverain sacrificateur, une fois par an, venait après s'être purifié X fois, venant avec le sang des boucs pour pouvoir faire l'expiation du peuple. Et ici, le rideau est ouvert. C'est comme si Dieu dit, l'accès jusqu'à moi, dans ma présence, est offert à tous ceux qui veulent, à tous ceux qui croient en Jésus-Christ. Parce que l'agneau de Dieu a été offert en sacrifice pour nos offenses. Enfin, juste après cela, la Bible nous parle de ce centenier. La Bible dit ici, le centenier qui était en face de Jésus, voyant qu'il avait expiré de la sorte, dit « Assurément ». Ça ne fait plus aucun doute. Assurément, cet homme était fils de Dieu. Telle est la confession du centenier. Cet homme qui préside et dirige l'exécution de Christ. Cet homme, en fait, il incarne toute la violence de la croix, toute la dureté du cœur humain. Il a assisté probablement au procès de Jésus, et puis il a entendu que Pilate ne voyait rien de mal en lui, qu'il le considérait comme un innocent, et qui malgré tout le livre pour être crucifié. Alors c'est lui qui doit diriger son supplice, les coups, le fouet qui mettait la chair à nu. Les épines. Il a participé aux moqueries. Il a ordonné les clous. Et puis il a fait dresser cette croix. Quand la croix tombait dans le trou, c'était toutes les chairs qui étaient déchirées. Et puis il a écrit, sur ordre de Pilate, le motif de la condamnation. Jésus de Nazareth, roi des Juifs. Il a entendu les paroles de Jésus. « Père, pardonne-leur, ils ne savent ce qu'ils font. » Et puis celle bienveillante envers le brigand repentant, « Aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. » Et puis cette autre parole bienveillante envers l'apôtre Jean et Marie, sa mère. Et puis il s'est tenu stoïque pendant 3 heures de ténèbres inexplicables et menaçantes. Et lorsque l'obscurité se dissipe, il entend Jésus crier triomphalement, « Tout est accompli ! Tout est payé !» Et puis mourir. La vie ne quitte pas Jésus peu à peu. C'est Jésus qui donne sa vie. On a brisé les jambes des autres brigands pour pouvoir les faire mourir avant la Pâque. Mais on n'a pas fait cela pour Jésus parce que Jésus a donné sa vie. Personne ne lui prend. Il a le pouvoir de la donner, il a le pouvoir de la reprendre. Quand il entend Jésus pousser son cri et mourir, cet homme brutal qui a présidé de nombreuses exécutions, qui n'a jamais entendu un tel cri, qui n'a jamais vu un crucifié expirer de la sorte, il fait cette déclaration magistrale. Assurément, cet homme est le Fils de Dieu. C'est la première fois dans l'évangile de Marc qu'un homme reconnaît Jésus pour être le Fils de Dieu. Début de l'évangile, il est dit, Marc chapitre 1, verset 1. Commencement de l'évangile de Jésus-Christ, fils de Dieu. Mais jamais quelqu'un n'a reconnu Jésus comme fils de Dieu. Oh, le Père, oui, l'a reconnu. Au verset 11, lors du baptême de Jésus, chapitre 1, verset 11, il est dit « Et une voix se fit entendre des cieux, ces paroles, « Tu es mon fils bien-aimé, en toi j'ai mis toute mon affection. » Cette voix du Père se fera entendre aussi lors de la transfiguration. Les démons, regardez chapitre 1, toujours verset 24, ont reconnu à plusieurs reprises, « Qu'y a-t-il entre nous ?» Et toi, Jésus de Nazareth, tu es venu pour nous perdre. Je sais qui tu es. Tu es le Saint de Dieu. Tu es le Fils de Dieu. Et à plusieurs reprises, les démons reconnaissent Jésus comme le Fils de Dieu. Mais il faut attendre la fin du 15e chapitre pour que le premier homme le reconnaisse. Cet homme, c'est un païen. C'est une brute épaisse. On devenait centenier, non pas en faisant les grandes écoles d'officiers, on devenait centenier parce qu'on avait mené quantité de combats, de batailles, parce qu'on avait roulé sa bosse dans la légion romaine. C'était un homme dur. Et il fait cette confession lorsqu'il est face à la croix, face à Christ crucifié, assurément, cet homme est le Fils de Dieu. Nous aussi, on est aujourd'hui devant Jésus. Jésus crucifié. J'ai essayé de vous décrire la croix, juste pour que vous puissiez vous placer devant cette croix. Que vous puissiez examiner les faits. Que vous puissiez, comme cet homme, reconnaître assurément. Cet homme est le Fils de Dieu. Comment Dieu veut-il que nous répondions à la crucifixion de son Fils? Mais comme cet homme, tous les passages parallèles présente le centenier comme celui qui a glorifié Dieu. Luc dit, il glorifie Dieu à ce moment-là. Et il dit, cet homme était juste. Et il dit aussi en Marc, cet homme est le Fils de Dieu. Reconnaître Jésus comme le Fils de Dieu, c'est reconnaître qu'il est juste et qu'il meurt non pour ses propres péchés, il n'en a pas, mais pour les nôtres. C'est donc glorifier Dieu et l'aimer en retour. Quelles conséquences cette réponse aura-t-elle sur notre vie? On ne peut pas imaginer cet homme centenier dire « Assurément, cet homme est le Fils de Dieu » et puis passer à autre chose. Si le Fils de Dieu, le Dieu éternel, le Créateur de toutes choses, de l'univers, s'est laissé humilier de la sorte sur la croix. C'était pour véritablement une œuvre parfaite de salut, pour la nôtre. Sur notre plan relationnel avec Dieu, ça va changer, forcément. Nos cœurs vont être transformés, notre amour va être porté vers le Seigneur Jésus. On ne peut pas regarder le Seigneur crucifié sans être changé. Et puis, sur notre relation avec les autres, pareillement, on ne peut pas connaître, avoir reconnu une si grande œuvre et ne pas vouloir le porter autour de nous, pas pouvoir la partager autour de nous, la faire connaître. On ne peut plus vivre de la même manière quand on a été aimé de la sorte. C'est étonnant que cet homme soit le premier à confesser que Jésus est le Fils de Dieu. Il y avait un des brigands, c'était aussi étonnant que ce brigand ait accepté, parce que c'était des hommes vraiment loin, 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 loin des choses de Dieu. Mais ça nous montre à quel point la miséricorde de Dieu est grande. Dieu est capable de sauver le pire des pécheurs. Si vous vous voyez comme tel, alors prenez courage. Prenez courage. Jésus a sauvé le centenier. Jésus a sauvé le brigand. Ne désespérez pas pour votre compte. Et puis, à la fois, c'est pas étonnant qu'il ait sauvé ce centenier. Parce que ce centenier, il s'est placé face à la croix. Il a tout vu. Il a tout examiné. Rien n'a échappé à cet homme. Et si rien ne peut vous échapper, en lisant l'évangile de Marc, ou en lisant d'autres évangiles, les récits de la crucifixion de Christ, et la grandeur de son amour pour vous, alors vous aussi, par la grâce de Dieu, par l'illumination du Saint-Esprit, vous pourrez aussi dire avec cette même assurance, il est le Fils de Dieu, il m'a sauvé, il est mort pour mes péchés, pour mes fautes. Et alors vous pourrez avoir la paix du cœur, celle qui change toutes nos vies.